Bonjour frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de l'engagement que devrait avoir chaque membre d'une communauté locale, un engagement collectif pour permettre à l'Église de progresser dans ce monde. Et j'ai choisi trois textes qui se trouvent dans le livre de Néhémie, trois textes qui nous parlent justement d'un engouement général de la part du peuple d'Israël pour réaliser une œuvre particulière, pour avoir un projet abouti. Et nous allons lire trois versets, ou quelques versets en tout cas, dans Néhémie 2 tout d'abord. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18, ce sont des versets bien connus, ils font référence à une histoire fondamentale, classique de l'Ancien Testament, mais c'est bon de les rappeler. Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes ? Jérusalem est détruite. Et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et puis le verset 18. Et je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu, était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ne faites pas attention au bruit de l'ennemi, je vais parler plus fort que lui. Voilà. C'est pas un ennemi, enfin, j'en sais rien. Mais de toute façon, restons concentrés sur la parole de Dieu. Le deuxième texte se trouve un peu plus loin au chapitre 4 et au verset 6. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où vous reviendrez vers nous. Apparemment, c'est une référence que je n'aurais pas dû citer. Une autre référence dans le chapitre 10 et au verset 29. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les néthiniens et tous ceux qui sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs enfants, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promettent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Dieu, ses ordonnances et ses prescriptions. Voilà, donc deux textes, l'un qui nous parle d'un intérêt général de la part du peuple pour viser un projet de reconstruction de la muraille de Jérusalem, et l'autre qui est un engagement de la part du peuple dans son entièreté à suivre, à respecter, à obéir à la loi de l'Éternel donnée par son serviteur Moïse. Alors, après la déportation du royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Assyrie, 2 siècles plus tard, à cause de la rébellion du peuple de Juda, cette fois, c'est à son tour d'être déporté, d'être exilé à Babylone, cette fois sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Alors on sait que la déportation s'est effectuée sur trois vagues successives, en trois vagues successives, pardon, une première en 500, en moins 597, une seconde en moins 587 et une troisième en l'an moins 582. Alors après la chute de l'Empire babylonien et l'avènement de l'Empire médo-perse, le roi des Mèdes et des Perses, Cyrus, a promulgué un édit, une loi, autorisant les Juifs à rentrer chez eux. En 539, tout d'abord, lors de la promulgation de l'édit, une première vague, elle s'est opérée aussi en plusieurs fois, le retour s'est opéré en trois reprises également. Il y a eu un premier retour sous la direction de Zorobabel, qui était le petit-fils du roi Joachim, accompagné du grand prêtre Josué, à ne pas confondre avec Josué qui était le conducteur du peuple d'Israël, successeur de Moïse, fils de Noun. Et puis il y a eu un deuxième retour en l'an moins 459, sous donc un retour qui s'est effectué sous la conduite du sacrificateur et scribe Esdras. Et enfin, il y a eu un troisième contingent de Juifs qui est retourné sous la conduite, cette fois, de Néhémie, qui était l'échanson, celui qui servait à boire au roi Artaxerxès, ou Xerxès, c'est pas facile à dire, c'est Xerxès. Donc, voilà. Et c'est donc dans ce contexte-là que s'affichent les deux versets que nous avons lus, puisque le troisième, apparemment, c'était pas le bon. C'est dans ce contexte-là que s'affiche donc la reconstruction de la muraille de Jérusalem, opérée par un engouement général de la part du peuple dirigé par Néhémie. Trois versets qui finalement illustrent bien l'importance et l'impact que devrait avoir l'engagement général des chrétiens dans l'Église. L'engagement collectif des membres d'une église locale. L'importance de l'engagement collectif. Il arrive parfois que nous nous engagions dans bien des domaines différents. Dès qu'on a une source de motivation, s'ensuit généralement un engagement. Par exemple, si j'ai envie d'entretenir ma condition physique, ben je peux m'engager dans un cercle sportif ou bien dans un club sportif pour exercer n'importe quelle discipline sportive. Ou bien si des parents peuvent rejoindre aussi une association de parents dans l'établissement de leurs enfants que fréquentent leurs enfants en tant qu'élèves. Ou bien on peut s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique. On peut s'engager dans la politique pour défendre et promouvoir un idéal. D'autres encore s'engagent pour défendre la cause animale ou environnementale, ou encore pour lutter contre les préjugés, contre le racisme. Certains préfèrent encore s'engager pour lutter contre la pauvreté à travers toute une série d'associations. D'autres s'engagent aussi pour la lutte contre certaines maladies, donc la lutte pour lutter contre le cancer, par exemple, etc., etc., etc. Et tous ces engagements, toutes ces formes d'engagement ne sont pas mauvaises en soi. Certaines même sont bonnes et louables, mais quid de notre engagement dans l'Église? Qu'en est-il de mon engagement dans l'Église locale? Pourquoi les chrétiens hésitent-ils tant à s'engager dans l'Église locale? Pourquoi les membres de l'Église ont tendance à souvent rechigner pour s'engager de façon pratique, de façon efficace pour la cause de Dieu dans l'Église locale? Et pourtant, pour vivre, pour croître et pour rayonner, l'Église locale a besoin d'un engagement collectif général de la part de ses membres. Il faut que nous prenions conscience de cela. Certains personnages de la Bible nous servent de référence, nous servent de modèles, sont des modèles pour nous, des modèles d'engagement. Ainsi, par exemple, on peut citer David, le roi David, dont il est écrit en Actes, notamment, chapitre 13, verset 22. Je n'ai pas obligé de chercher la référence parce que je vais aller vite, hein, Olivier. Il est écrit ceci, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté ou toutes mes volontés. » Et puis il y a Ruth aussi, on se souvient bien de Ruth, la belle-fille de Noémie, hein, qui a pu dire, par fidélité et par engagement envers sa belle-mère et envers Dieu, « Ton peuple sera ton peuple, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. » Un modèle d'engagement. Moïse, dont il est écrit, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. » Nombre 12, verset 7. Josué, qui a lui affirmé au chapitre 4 et au verset 16 du livre qui porte son nom, « Loin de moi la pensée d'abandonner la loi de l'Éternel. » Fidélité, engagement. Anne, la maman de Samuel, elle était stérile, elle était l'objet de moqueries de la part de Pénina, l'autre femme d'Elkana, son mari. Et un jour, elle est allée à Silo, comme nous le savons, pour prier. Et elle a pris cet engagement solennel devant Dieu que s'il lui accordait à elle, qui était stérile, un enfant, elle le consacrerait dès son jeune âge pour qu'il soit au service de Dieu dans le temple à Silo. Et elle s'est acquittée parfaitement de cet engagement qu'elle avait fait, de ce vœu qu'elle avait fait solennellement à Dieu, puisque dès que l'enfant a eu l'âge d'être sevré, elle l'a amené au temple à Silo pour qu'il devienne l'auxiliaire du prêtre. Et Élie, on se souvient bien de cet épisode. L'engagement, la fidélité dans l'engagement. Et puis, il y a aussi l'apôtre Paul qui peut affirmer « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Ou encore, il pourra dire aussi « Pour moi, vivre c'est Christ, un engagement total de sa part, fidèle. » Et puis, il y a aussi Jésus, qui est resté fidèle à la mission pour laquelle il a été envoyé par le Père. Et sur la croix, il a pu dire, tout est accompli. J'ai réalisé mon œuvre de rédemption, de rachat pour l'humanité entière. J'ai donné ma vie en sacrifice à la place des coupables, à la place du coupable. Tout est accompli. Et à côté de ces exemples, de ces personnages qui sont des exemples pour chacun d'entre nous au niveau de leur engagement, il y en a d'autres qui n'ont pas respecté leur engagement ou qui ne se sont pas engagés du tout. Et on peut citer, par exemple, le peuple d'Israël. Malgré l'engagement qu'il a pris, l'engagement solennel, la promesse de s'engager à respecter et à écouter la loi de l'Éternel, bien, à moult reprises, on voit que malheureusement, le peuple a failli. Il a abandonné son engagement, l'engagement solennel qu'il avait pris devant Dieu. On voit ça notamment en Exode, chapitre 24, versets 7 et 8. Exode 32, versets 7 et 8 également. Puis Samson, qui n'a pas respecté son naziréat. En tant que naziréen, consacré à Dieu, il ne pouvait pas ni boire de boisson forte, ni toucher de cadavre. Et on se souvient qu'il a été chercher du miel dans la gueule d'une carcasse de lion. Il n'a pas respecté son engagement totalement. Et puis, il y a aussi Salomon, qui est une personne référence dans la parole de Dieu, mais malheureusement, à la fin de sa vie, son cœur n'a plus été tout entier, entièrement consacré à l'Éternel. Son cœur a été partagé à cause de ses femmes étrangères. Et puis, il y a aussi Saül, 1 Samuel, chapitre 15, verset 10 à 12, qui n'a pas respecté non plus ses engagements. À deux fois, à deux reprises, il a désobéi à la parole du prophète Samuel et Dieu l'a destitué de son titre de roi. Et puis il y a Roboam, le premier roi de Juda, juste après le schisme. Lui aussi, il s'est détourné de la loi de l'Éternel. Ou encore, dans le Nouveau Testament, Démas. L'apôtre Paul écrit de lui, et comme nous le savons bien, de Timothée 4, verset 10, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et puis oui, par amour pour le monde, on peut ne pas s'engager pour Dieu. On peut abandonner un engagement pour Dieu, à l'image de ce Démas. Alors la question c'est à quelle catégorie de personnes est-ce que je fais partie? À quelle catégorie est-ce que j'appartiens? Est-ce que je suis de ceux qui prennent un engagement fidèle, un engagement sérieux envers Dieu, ou bien est-ce que je fais partie de cette catégorie de personnages qui n'ont pas pris d'engagement ou qui ont abandonné leur engagement? Cependant, c'est vrai que un engagement, quel qu'il soit, ne devrait pas être pris à la légère. Nombre 30, verset 2, confirme cela, et nous lisons, « Lorsqu'un homme fera un vœu ou prendra un engagement devant l'Éternel, fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Un engagement ne doit pas être pris à la légère. Il doit être mûri. Et puis, il y a le fait aussi que le Deutéronome, en tout cas, c'est ce que Deutéronome, verset 23, chapitre 23, verset 22 dit, celui qui ne respecte pas son engagement avec Dieu commet un péché. C'est un péché que de ne pas respecter un engagement qu'on prend devant Dieu, un engagement solennel. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, verset 3 à 5, quant à lui, relate ceci, lorsque tu fais un vœu à Dieu, lorsque tu prends un engagement devant Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu ou ne pas prendre d'engagement que d'en faire un sans l'accomplir. Mieux vaut ne rien promettre que de promettre quelque chose et de ne pas le réaliser, de ne pas tenir sa promesse. Proverbe 20, verset 20, chapitre 20, verset 25 nous rapporte ceci, quant à lui, c'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour l'homme que de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Oh, je ne m'attendais pas à tant de difficultés. Oh, je ne m'attendais pas à faire tant de sacrifices. C'est avant de prendre l'engagement qu'il nous faut réfléchir. Même la morale laïque souligne l'importance d'être fidèle dans son engagement, met l'accent sur l'importance de garder un engagement. Ainsi, ce pédagogue français Blanchard du XVIIIe siècle a écrit dans « Les Maximes de l'honnête homme » qui a été édité en 1772 « Tenez votre parole inviolablement. Un engagement doit toujours être honoré. » Ça rejoint ce que la parole de Dieu dit finalement. Tenez votre parole inviolablement. Un engagement doit toujours être honoré. Alors, toutes ces précisions, elles ne sont pas là pour nous refroidir ou pour nous décourager à prendre un engagement quelconque, à court terme, de façon ponctuelle, ou bien de façon plus régulière. Mais ces précisions, elles sont là pour nous rappeler qu'un engagement est quelque chose, devant Dieu, est quelque chose de solennel, quelque chose de sérieux. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui freine notre engagement pour Dieu? Qu'est-ce qui constitue des barrières à ce que nous nous engagions dans l'Église locale pour servir Dieu? Alors, bien sûr, il y a l'âge, il y a la vieillesse, il y a la maladie, il y a l'épreuve, et tous ces cas de figure, toutes ces situations particulières sont bien compréhensibles. Mais à côté de cela, il y a d'autres obstacles que nous pouvons rencontrer, comme la crainte, comme l'appréhension de rencontrer des difficultés, de faire face aux critiques. Et c'est vrai que l'ennemi, dès que quelqu'un se lève pour s'engager pour Christ, ne manquera pas de tenter de le déstabiliser, ou encore de le décourager. Remarquons d'ailleurs que lors de la construction de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie et le peuple ont dû faire face à des ennemis. Sambalat, Geshem et Tobija, qui ont tenté de décourager le peuple dans son entreprise de reconstruction de la muraille de Jérusalem par des railleries, par des moqueries, par du dénigrement, par du mépris, et même par quelques velléités violentes, de violence. Mais Dieu leur a permis de poursuivre, de mener à bien l'entreprise dans laquelle ils étaient engagés pour sa gloire. Et Dieu veut aussi nous soutenir. Si nous prenons un engagement pour lui, Dieu veut nous donner de la réussite dans notre entreprise, dans notre engagement pour lui. Alors, oui, il y a l'appréhension, il y a la crainte de rencontrer des difficultés, comme je viens de le rappeler, de faire face aux critiques, mais il y a aussi la peur de ne pas répondre aux attentes, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir capable, ou bien de ne pas assumer pleinement et correctement son engagement. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il est peut-être bien d'envisager, comme on le fait après n'importe quelle formation, une période d'essai, une période, entre guillemets, de stage. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'invente, l'apôtre Paul, quand il parle de la fonction de diacre, écrit en 1 Corinthiens au chapitre 3, par rapport avec les diacres, qu'on les éprouve d'abord, qu'on les teste d'abord, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, avant de remplir officiellement cette fonction de diacre. Et ça peut nous aider à voir si je suis capable, à vérifier si j'ai les aptitudes de remplir telle ou telle fonction, de prendre tel ou tel engagement. Et puis il y a aussi l'appréhension de quitter sa zone de confort. Ben oui, moins de temps libre, moins de moments de détente, moins de distractions. Les sacrifices à consentir sont trop importants. Alors je ne m'engage pas. Et c'est vrai qu'un engagement, quel qu'il soit, coûte quelque chose. Il a un prix. Il implique un ou plusieurs sacrifices. Le temps que je consacre pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu, est un temps que je ne consacre pas pour ma satisfaction personnelle. Et l'apôtre, pas l'apôtre, mais David, le roi David le souligne bien de façon pertinente, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Oui, un engagement, ça coûte. Oui, un engagement, ça a du prix. Et puis Jésus lui-même dira aussi cette parole bien connue dans Matthieu 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est vrai, l'engagement a un prix. Le salut est simple et gratuit, mais l'engagement est coûteux. L'engagement est coûteux. Un autre obstacle qui peut se dresser devant nous pour nous empêcher de nous engager pour la cause de Christ dans l'Église, c'est le péché. S'il y a un péché qui est récurrent dans ma vie, un péché qui n'a pas été abandonné, un péché qui n'a pas été confessé, je peux me sentir indigne de m'engager pour la cause de Christ, de m'engager pour un service, pour un ministère quelconque. Et pourtant, à tout péché miséricorde, David, le roi engagé, lui aussi a commis malheureusement quelques écarts. Mais il a su aussi passer par la repentance et saisir la grâce et le pardon que Dieu accorde encore aujourd'hui à chacun de ses enfants. Et c'est important de savoir ça. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu qui veut restaurer le pécheur qui a commis une erreur, celui, l'homme, le chrétien qui a commis quelque écart. Alors oui, il est important de confesser ses fautes, de confesser son péché pour pouvoir s'engager pleinement et poursuivre dans cet engagement. Autre obstacle, une absence de communion, de relation, d'intimité avec Dieu. Le chrétien qui n'a pas de communion avec Dieu peut s'engager dans l'Église, mais son engagement risque de ne pas avoir le même impact, la même efficacité. Ça risque d'être simplement de l'activisme sans la puissance nécessaire de l'esprit. Alors, d'une façon générale, le service ou l'engagement dans l'Église découle de mon engagement personnel avec Dieu. C'est un pasteur, Joel Osteen, un pasteur évangélique américain, qui a écrit ceci. Vous pouvez être engagé envers l'Église, mais pas engagé avec Christ. Mais vous ne pouvez pas être engagé avec Christ et non engagé envers l'Église. En d'autres termes, et de façon plus moins détournée, si vous voulez, mais si je suis engagé dans ma relation avec Dieu, automatiquement, je serai aussi engagé dans un service pour lui, pour mes frères et sœurs, dans l'Église locale. Alors, on s'engage, donc, peu ou pas, parce que tout fonctionne bien sans moi. Tout semble bien fonctionner sans moi, puis je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. J'ai trop de travail. D'autres sont plus doués que moi. Ils sont plus capables. Et puis, je viens au culte le dimanche matin, c'est déjà bien. Pourtant, Dieu fait une tâche particulière, précise, pour chacun de ses enfants. Dieu veut que chaque membre de la communauté locale s'engage pour un service dans la communauté, pour un service à sa gloire. La vie, l'organisation, les activités de l'Église ne peuvent pas reposer uniquement sur un petit noyau. Quand notre engagement meurt, quand l'engagement du chrétien meurt, c'est l'Église locale, malheureusement, qui meurt. Imaginons, je prends comme exemple, c'est fictif, Gino, prends ton exemple. J'aurais pu prendre un autre exemple. Je ne veux pas le mettre sur un piédestal. J'aurais pu prendre l'exemple de Rose, ou bien celui de Jean-Pierre, ou bien celui de quelque autre personne engagée pour Christ dans l'Église. Imaginons que pour une raison quelconque, Gino décide de tout abandonner, d'abandonner son ministère. Je l'espère. Moins de prédication, moins d'exhortation, plus de coups de fil d'encouragement, plus de conseillers dans le domaine des travaux, il y en a quelques-uns d'autres, heureusement, mais enfin, et une personne régulière en moins pour participer à la réunion de prière. Qui pourra se lever pour remplacer Gino? Y a-t-il quelqu'un pour remplacer Gino dans son ministère? Entendrions-nous la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et répondrions-nous de façon positive à cet appel, comme le fit finalement Ésaïe, au chapitre 6, verset 8 du livre qui porte son nom, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce que nous répondrions ça à Dieu? Est-ce que nous prendrions cet engagement? C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu attend de chacun des membres de l'Église locale, de l'Église de Jumet en particulier. Le noyau qui est en place ici, de responsable, n'est pas éternel, en tout cas pas sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Et si l'engagement des chrétiens meurt, c'est l'Église locale entière qui meurt. Il y a beaucoup d'églises sœurs à la nôtre qui ont dû mettre la clé sous le paillasson, comme on dit, beaucoup d'églises sœurs à la nôtre qui ont dû fermer leurs portes. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus personne pour s'engager. C'est le risque. D'où l'importance d'un engagement collectif de la part des membres, de chaque membre de l'Église locale. On peut prendre d'autres exemples, hein, concernant des ministères qui sont apparemment d'importance moindre, mais qu'elles ne le sont pas en réalité. Regardez un petit peu. Si la personne qui est responsable d'aller chercher le pain dit « Maintenant, je ne vais plus chercher le pain. » On n'a plus de pain pour la Sainte-Seine. Oui, on trouvera quelqu'un pour le remplacer. On trouvera bien quelqu'un pour le remplacer, mais encore faut-il que cette personne parte plus tôt pour aller chercher à la boulangerie les pains nécessaires au partage de, oui, à la Sainte-Seine et à ce repas commémoratif. Merci à la personne qui s'engage pour ça. Je sais pas qui c'est. Merci Jean-Paul. Mais c'est un ministère qu'on ne voit pas, un service et un engagement de l'ombre, mais qui a toute son importance. Prenons un autre exemple. S'il y a défection des personnes qui se chargent de l'entretien du local dans lequel on se réunit dimanche après dimanche pour nettoyer le sol, la cuisine, les toilettes. Imaginez un petit peu que, terminé, plus personne ne s'en charge. On se réunirait dans un endroit, dans un lieu, dans une salle insalubre, dans une porcherie, si vous me permettez l'expression. Merci à l'équipe d'entretien. Merci à l'équipe d'entretien. Il y a tant et tant de domaines, de champs d'action dans lesquels le chrétien, les chrétiens, une église locale peuvent s'engager. Tant et tant de domaines. L'encadrement des enfants, l'encadrement des jeunes, l'encadrement des personnes plus âgées, l'organisation de réunions de sœurs, comme ça s'est déjà organisé il y a quelques années. Il ne faut évidemment pas que tout repose sur les mêmes personnes, encore une fois. Mais il y a aussi le ministère de la prière pour les malades. L'engagement dans la commission ou dans le comité ou dans l'équipe d'évangélisation. Le don d'exhortation. Le don de l'enseignement, le don de cette parole de sagesse, le don de la sagesse, etc., etc., etc. Ces dons, ces talents que Dieu accorde à chacun de ses enfants, ils ne doivent pas rester enfouis, ils ne doivent pas rester cachés, mais ils doivent être, ils devraient être bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. C'est à ça que sert le don. Il doit profiter à la communauté dans son ensemble. Considérons 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 et Romains 12, où nous trouvons une liste sans doute pas exhaustive de tous les dons spirituels que Dieu accorde aux membres de l'Église locale. Tous ces dons spirituels. Relisons-les. 1 Corinthiens 12, 14 et Romains 12. C'est facile à retenir. Et posons-nous cette question. Qu'est-ce que j'ai reçu comme don de la part de Dieu? Qu'est-ce que j'ai reçu comme talent? Et si vous ne parvenez pas peut-être à voir clair, demandez conseil à un frère ou à une sœur ou à un responsable de l'Église qui pourra peut-être vous accompagner, vous orienter, vous encourager pour exercer ce don que vous avez reçu de la part de Dieu. Nous avons chacun reçu au moins un don à mettre au service de la communauté. Si tu es jeune, ou moins jeune, membre de la communauté, tu dois te sentir responsable de ce qui se déroule dans l'Église. Parce que Dieu a quelque chose à réaliser à travers toi. Si un de mes doigts de pied se fracture, malheureusement, c'est tout mon corps qui va en souffrir. Ça va me lancer dans le pied, mais je vais avoir une marche claudiquant, si je puis m'exprimer comme ça. Je vais commencer à boiter. je vais me déplacer avec beaucoup moins d'aisance, je ne pourrai pas aller confortablement ça et là. Un joueur de football qui a un orteil qui est fracturé, il ne peut pas tenir sa place sur le terrain, il ne sait pas courir, il ne sait pas shooter. C'est douloureux pour lui, c'est tout son être qui souffre. Et c'est pareil pour le corps de Christ. Même les membres apparemment les plus insignifiants, qui ne le sont pas réellement, souligne l'apôtre Paul, ont toute leur importance. Nous avons chacun un rôle à remplir dans l'Église de Jésus-Christ. Pour son bon fonctionnement, pour sa progression, pour son rayonnement dans le monde, eh bien, l'engagement doit être général dans l'Église. Il devrait y avoir un engagement de la part de chaque chrétien. Si la muraille de Jérusalem a pu être reconstruite à l'époque de Néhémie, malgré l'adversité, c'est parce qu'elle a rencontré un engouement général de la part du peuple. C'est parce qu'il y a eu un engagement total de la part du peuple pour réaliser ce projet qui a abouti. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. C'est ce que nous avons lu en introduction. Alors, une poignée d'ouvriers seulement s'était consacrée à la reconstruction de la muraille de Jérusalem, certainement qu'ils auraient été découragés et ils auraient abandonné le projet. D'où l'importance d'avoir un engagement communautaire, d'avoir un engagement collectif, d'avoir un engagement général de la part des membres de l'Église de Jésus-Christ. Alors pour conclure, l'œuvre de Dieu à Jumet ne peut se poursuivre que par l'engagement général de ses membres. Et c'est ce que Dieu veut, même pour la génération la plus jeune. Dieu veut nous utiliser pour son service dans l'Église. Dieu nous veut comme collaborateurs dans son œuvre. Dieu nous veut comme compagnons dans son œuvre, comme partenaires. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, pour chaque chrétien, pour chaque membre, pour chaque croyant dans l'Église locale. Mais est-ce que c'est ce que je souhaite, moi, personnellement? Est-ce que c'est aussi ce que je désire? Est-ce que c'est une priorité pour moi? Quelle est la mesure de mon engagement pour Christ dans l'Église locale? Dieu, aujourd'hui, et on va terminer par là, lance ce même appel que nous trouvons dans le livre de Jérémie au chapitre 30, verset 21. Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi, dit l'Éternel? Qui est celui qui engage son cœur pour venir à moi? Alors puissions-nous d'un même élan de cœur affirmer ces mêmes paroles que le peuple a adressées à Josué, en Josué chapitre 24, verset 24, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu nous donne de nous sentir pleinement responsables de cette qualité de membre de l'Église locale que nous avons, dont nous bénéficions pour nous mettre au service des uns et des autres, par un engagement solennel, par un engagement sérieux que nous voulons prendre pour la gloire de Dieu et l'avancement de son règne.